différemment ce soir pour la formation. On va commencer par l'enseignement et puis on fera une mise en pratique de cet enseignement. On va parler d'adoration ce soir et donc on prendra temps d'adoration si vous êtes d'accord ensemble. Donc on va changer un peu les habitudes. Ça va quand même? Ouais? Ouais. Ok. Non, c'était pas encore installé, mais des fois, quand on fait pas comme d'habitude, il y en a que ça perturbe. Alors, si vous vous sentez perturbé, tant pis pour vous. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'était début novembre avec Daniel. Est-ce que vous vous souvenez de quoi elle a parlé? Prier perpétuellement. Ouais. Il y en a qui reprennent leurs notes, je vois, c'est bien. Les thèmes. Il y avait deux grandes parties. Allez, je vous aide. Deux grands thèmes. Ouais. Vas-y. Très bien. Tabernacle de David, ouais. Ok, exact. Très bien. Bravo, Francine. Un bon point pour Francine. Au bout de 10 bons points, une image. C'est encore loin. Ok, le tabernacle de David. Très bien. Et c'était quoi l'autre sujet? Melchisédek. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Ouais, deux choses bien compliquées quand on ne sait pas ce que c'est. Ça fait tout de suite très ésotérique, mais ça ne l'est pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait en capacité, en deux mots, d'expliquer ces deux notions, ou l'une des deux? De ce qu'il en a compris, hein, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin que ce soit très élaboré. Le tabernacle de David, par exemple. Oui, Janine. Ah oui, tu sais ce que c'est sans être là, c'est encore mieux, vas-y. Ouais, très bien. Donc c'était un lieu établi par le roi David, c'est pour ça que ça s'appelle le tabernacle de David, qui servait à mettre la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël et qui effectivement était accessible à tous et avec un service de louange perpétuel, donc jour et nuit, en permanence. Ok, bon, c'est bien déjà. Et puis Melchisédek, alors c'est qui ça? Alors moi, vous savez, j'ai fait une école qui s'appelle comme ça, qui s'appelle l'école Melchisédek. Donc on avait l'habitude de dire Melchisédek. T'as pas entendu celle-là? Alors, Melchisédek et Melchisédek. Alors, il est appelé roi de Salem, effectivement. Ouais, très bien. Ok. Ouais, c'est ça. On ne sait pas grand-chose sur lui, ou plutôt, il y a quelque chose d'assez mystérieux autour de ce personnage, effectivement. Ça, c'est, comment on le sait, ça? Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est bien. C'est écrit où dans la Bible? Alors, l'histoire de Melchisédek, avec qui d'abord? Parce que c'est pas avec Abraham. Ouais, très bien. C'est dans la Genèse, au chapitre 14. Et puis, il nous est parlé à un autre endroit de la Bible de ce Melchisédek avec cette explication-là qui dit Melchisédek, ce personnage mystérieux qui n'avait pas de, dont on ne décrit pas la descendance, qui était roi de Salem. Effectivement, c'était dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Tout à fait. Alors, c'est qui Melchisédek? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Et pourquoi c'est important? Oui, il est appelé roi de Salem, en fait. On suppose que c'est l'ancien nom de Jérusalem, oui, effectivement. Il a reçu la dîme d'Abraham, effectivement. Ouais. Donc Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Ok, quoi d'autre? Ouais, ils ont partagé le vin et le pain ensemble. Quelle drôle d'idée! Hein? Oui, effectivement. Pourquoi c'est important en fait? Pourquoi on raconte ça dans le cadre d'une maison de prière? Comment? Vas-y. Ouais, il était sacrificateur et roi en même temps. Ouais, ce qui déjà est une caractéristique très particulière, puisque normalement, vous le savez, les deux fonctions de les deux lignées étaient différentes. La lignée des rois était de la tribu de Juda et la lignée des sacrificateurs de Lévi. Et donc, pourtant, ce personnage assez mystérieux avait les deux caractéristiques d'être à la fois sacrificateur et roi. Très bien, on avance. Quoi d'autre alors? Dieu est apparu à qui? Non. Non, perdu. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de... Oui, vas-y. Ah, ça c'est intéressant. Vous avez entendu? Il faut que tu le dises plus fort. Alors c'est effectivement, on appelle ça une théophanie, une apparition de Dieu, où effectivement ce personnage assez mystérieux, l'épître aux Hébreux nous dit plusieurs choses qui semblent pointer et indiquer, mais pas clairement non plus, qu'il s'agit d'une des formes de Jésus préincarné potentiellement. Donc c'est intéressant parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais savoir que Jésus pourrait apparaître dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Mais il y a une chose très importante encore qu'on n'a pas dite avec Melchisédek. On a dit plein de choses intéressantes, hein, mais il y en a encore une qui notamment a un rapport avec la maison de prière. Tu sors tout ce que tu sais sur la maison de prière, tu te dis, on sait jamais, ça peut passer. Si ça passe, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont fait alliance, oui, effectivement. Et pourquoi Daniel, elle en parle dans le cadre d'une formation maison de prière quand même? C'est là, je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose d'important quand même dans cette comment? Ouais. Alors ouais, effectivement, Melchisédek a béni Abraham. Donc ça, c'est un des indices qui nous permet de penser que Melchisédek était supérieur à Abraham. D'ailleurs, c'est ce que fait l'Épître aux Hébreux. Elle explique ça, en fait. Elle explique pourquoi Melchisédek était supérieur à Abraham. Ce qui, pour les Juifs, évidemment, c'est une lettre qui s'adresse aux Hébreux. Donc, c'est un peu choquant, hein, pour pas dire autre chose. Donc, voilà. Hein. Mais pourquoi on parle de ce personnage mystérieux dans le cadre d'une maison de prière, d'après vous? Il manque un truc, en fait. Il manque une petite notion. Alors, vous savez que Melchisédek est cité dans trois endroits de la Bible. En fait, on en a parlé de deux. On a parlé de la Genèse, on a parlé des Hébreux, et il y a un autre au milieu qui est très important, en fait, et qui va expliquer, qui va faire le lien avec tout ça. C'est dans les psaumes. Ça vous dit, rappelle rien? Tu l'as cité, le psaume? Je ne sais plus. Oui, je pense. Oui. C'est lequel? Vas-y, Francine. Hein? Tu parlais de Melchisédek? Non, c'est pas ça. Non. Ah oui, elle a cité ça. Alors, je sais plus, j'ai un trou, donc je sais plus quel psaume c'est, mais vous allez retrouver pour moi. 110, merci. Oui, c'est ça. Où il se passe un truc assez étrange, c'est que David assiste à une conversation entre Dieu et le roi, entre Dieu et Jésus, on peut supposer. Donc il assiste et l'Éternel dit à mon Seigneur, donc l'Éternel dit au roi, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc le point important qui relie tout ça, c'est l'ordre, c'est le sacerdoce. Elle en a parlé de ça, vous vous rappelez, du sacerdoce, c'est-à-dire du service Il y a plein de gros mots, en fait, dans ces notions-là, c'est pour ça. Sacerdos, vous la remplacez par service. Enfin, moi, j'ai des raccourcis. Hein. Donc, c'est un service, un sacerdos. Donc, on parle de Melchisédek parce que c'est un ordre de sacrificature. Vous savez qu'il y a le sacrificateur selon l'ordre, on va dire, de la loi humain. C'était Aaron, hein, selon l'ordre d'Aaron. Ça, c'était l'ordre normal, on va dire, habituel pour les Juifs. Mais il y a une autre sacrificature qui est supérieure, à laquelle Jésus appartient, qui est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, et il intercède pour nous. Donc Jésus est aussi le souverain sacrificateur qui nous permet, nous, d'être des sacrificateurs aussi avec lui, dans cet ordre nouveau. Donc c'est un ordre différent de sacrificature qui est vraiment aussi, alors je ne vais pas refaire l'enseignement, mais c'est très important pour nous de savoir ce que nous faisons. Quand nous servons Dieu, quand nous sommes dans la maison de prière, nous servons la présence de Dieu, nous participons à cette sacrificature de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi on parle de Melchisédek de manière aussi importante. Et je vous encourage à réécouter l'enseignement, à réviser, parce qu'il y aura une interro-surprise à la fin de l'année, non c'est pas vrai. Mais si vous avez des doutes et que vous voulez approfondir, réécoutez l'enseignement. Ok. Alors, ce soir, on va parler d'adoration. Et c'est un sujet qui me plaît beaucoup, où il y a beaucoup à dire. Alors, Saint-Esprit, viens-moi en aide, parce qu'il faut faire le tri et dire l'essentiel. Mais vraiment, l'adoration, ça fait partie des fondements. Là aussi, on reste sur les fondements de ce qu'est une maison de prière. Alors la première chose importante, je vais vraiment poser quelques bases et puis on essaiera d'aller quand même un petit peu plus loin. La première base, c'est ce que mon ami Fabienne Ponce écrit comme étant la clé de l'adoration. C'est que l'adoration commence et finit avec Dieu. Et ça tombe bien parce que quand on s'investit dans une maison de prière, quand on met en place une maison de prière, c'est un peu la déclaration qu'on fait tous ensemble. Dieu est au centre de ce que nous voulons vivre et ça commence avec lui et c'est pour lui. Se basant sur ce verset de Romains 11, 36 qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». Romains 11, verset 36. De lui, par lui et pour lui. De lui, ça veut dire qu'il est la source de tout. Ça commence avec lui. C'est lui qui nous aime le premier. C'est lui qui commence son œuvre dans nos vies. Il est la source de tout. Nous sommes nés de lui, vous le savez, nous sommes nés d'en haut. Par lui, ça veut dire que nous n'adorons pas juste par nous-mêmes, mais nous adorons par le Saint-Esprit. Donc c'est l'adoration, c'est quelque chose qui se fait complètement en partenariat avec le Saint-Esprit. Et pour lui, ça veut dire que le but, c'est Dieu et c'est pas nous. L'adoration, c'est une façon de tuer le moi qui règne si facilement dans nos vies. Et l'adoration dit ça, elle dit Dieu d'abord, Dieu en premier dans ma vie. C'est pour lui que nous faisons les choses. Et l'adoration, elle s'oppose vraiment à cette culture, cette habitude que nous avons du moi. Mes problèmes, mes circonstances, mon ministère, etc. Et une chose qui est très importante, du coup, c'est que l'adoration, ça devient un but, c'est un but en soi. Et ça, c'est vraiment très important. Je ne sais pas comment vous avez eu l'habitude, vous, mais moi, là où j'ai grandi, j'ai souvent entendu dire... J'étais responsable, enfin, pas responsable, mais conducteur de louange, et on me demandait souvent, tiens, Karel, fais-nous un chant avant qu'on passe à l'enseignement, avant qu'on passe à quelque chose de plus important. Hein? Genre, on va s'échauffer pour quelque chose de plus important. Et je pense que c'est dans beaucoup d'endroits, on considère l'adoration comme étant quelque chose de super, de génial, mais c'est pas le vrai but, quoi. Le but, il est plus grand. Alors que c'est l'inverse, en fait. L'adoration, c'est le but. C'est un but en soi. Et quand on adore pas pour faire autre chose, on adore pas pour être béni, on adore pas pour recevoir, on adore pas. Ces choses-là sont des conséquences. Elles existent, bien sûr, de l'adoration. Mais le but de l'adoration, c'est Dieu. Et c'est pour ça aussi que c'est important peut-être d'avoir des temps d'adoration où on fait que ça. Parce que c'est un but en soi. Et quand Dieu est adoré, il se passe des choses. On va en reparler. Une phrase que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que l'adoration, c'est l'enjeu suprême de l'univers. Comment on sait ça? Si vous regardez l'Apocalypse, c'est un livre qui, entre autres choses, va décrire deux camps. La fin des temps, on adore la bête ou on adore Dieu. Et on reçoit même une marque en fonction de qui on adore. Satan est tombé parce que il voulait une partie de l'adoration qui revenait à Dieu. Vous savez qu'il était un ange de lumière, hein, Satan, c'était le grand conducteur de louanges du ciel. Et à un moment donné, il a voulu une part de la gloire pour lui-même. Quand Satan vient voir Jésus pour le tenter dans le désert, il lui dit quoi ? « Si tu m'adores, je ferai ceci et cela. » L'enjeu suprême de l'univers. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux, l'adoration. C'est pas de la musique, c'est pas un échauffement pour autre chose. L'adoration, c'est vraiment un enjeu. Et il suffit de regarder autour de nous, hein, il suffit de regarder dans la société quelles sont les idoles d'aujourd'hui vers lesquelles les hommes s'inclinent si facilement. Et la question qui nous est posée à nous, c'est qui est adoré ? Qui sera adoré? Voilà la grande question de l'Église des derniers temps. L'adoration, c'est aussi ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous sommes des êtres vivants, conçus, façonnés pour être des sources d'adoration du Seigneur, comme toute la création d'ailleurs. Toute la création est un immense chant de louange au Créateur, et de même nous le sommes. Et c'est aussi ce que nous ferons pour l'éternité. Nous adorerons le Seigneur tous ensemble pour l'éternité. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ça, n'est-ce pas? Ça vaut le coup de comprendre ces choses-là et de les intégrer dans nos vies. Intégrer l'adoration dans notre vie, c'est vraiment important. Une des premières façons de comprendre l'adoration, c'est d'aller regarder dans Apocalypse les chapitres 4 et 5. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est par là qu'il faut commencer. Le chapitre 4 de l'Apocalypse nous décrit le trône de Dieu. Alors je ne sais pas, peut-être que des fois vous vous dites, oh, j'aimerais bien savoir comment c'est au ciel, à quoi ça ressemble. Eh bien, on en a une description de la salle du trône, ce qu'on appelle la salle du trône de Dieu. Et là on voit plein de choses complètement extraordinaires et difficiles à saisir même, hein. Il y a des êtres vivants tout bizarres, il y a des éclairs, des tonnerres, des lumières, des arcs-en-ciel, une mer de cristal, des gens qui adorent et qui crient tellement fascinée par le Seigneur, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, et des vieillards qui jettent leur couronne devant Dieu, et on a cette extraordinaire description, cette visite que Jean, l'apôtre Jean, a fait de la salle du trône, il a vu la salle du trône. Et l'adoration, ça commence comme ça, quand nous voyons vraiment Dieu dans toute sa splendeur, ce qui nous est possible en esprit pour le moment. Nous le verrons complètement face à face un jour, mais nous avons accès, nous avons un libre accès à la présence même de Dieu. Et Apocalypse 4 nous donne la plus grande révélation de la beauté de Dieu. Et on y voit une immense beauté. Les adorateurs, ce sont des gens qui aiment la beauté de Dieu. Qui aiment voir Dieu dans sa splendeur, dans sa majesté. Et que ça fait frémir, que ça saisit. C'est ça être un adorateur. Et Apocalypse 5 va exalter Jésus. Exalter ce qu'il a fait. Exalter sa royauté. Exalter... le fait qu'il soit un agneau immolé et que tout le ciel célèbre ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. Et ça, c'est une source de fascination sans fin, sans limite. Et je vous encourage pendant peut-être les prochains jours, je ne sais pas si vous avez des plans de lecture, mais si vous avez du temps où vous avez envie de vous dire tiens, qu'est-ce que je peux lire, lisez Apocalypse 4 et 5 et laissez-vous saisir par l'esprit, laissez-vous fasciner par la beauté de Dieu et par la beauté de l'œuvre de Jésus qui devient roi de toute la terre. Et toujours dans l'Apocalypse, on voit que ce qu'on adore, c'est ce qu'on devient. D'ailleurs, c'est le cas en fait. Les gens, vous savez, qui adorent, je sais pas moi, on va dire un club de foot, par exemple, au hasard, vous savez, ils achètent le maillot et ils ont un comportement particulier, etc. Et en fait, quand on adore quelque chose, ce quelque chose imprime sa marque en nous et nous transforme. Dis-moi qui tu adores et je te dirai qui tu es. Ça change jusqu'à l'identité des gens. On le voit bien dans l'Apocalypse, hein, avec cette marque qui vient, la marque de la bête pour ceux qui adorent la bête, et puis le sceau de Dieu pour ceux qui adorent Dieu. Et si on désire que notre identité soit imprégnée de celle de Dieu, si on désire ça, alors l'adoration est un passage obligé. Et devenir de plus en plus semblable à Christ, c'est un acte d'adoration. Ça nécessite un acte d'adoration, je veux dire. Et ce que j'adore, donc, fait mon identité, dit à qui j'appartiens. Ça va ? Ça, c'était un petit peu les bases de l'adoration. Mais l'adoration, c'est quoi? Alors, vous aurez entendu sans doute beaucoup de définitions différentes. Il y en a plein, il y en a des très bien. Je pense que c'est pas quelque chose qui peut se définir en une phrase comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma définition, qui n'est pas la définition, hein, ok? C'est juste ma compréhension aujourd'hui, là où j'en suis, dans mon cheminement d'adorateur, de ce qu'est l'adoration. Et en plus, je pense que c'est pas forcément la définition qu'on a l'habitude d'entendre, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Alors, je vous donne une définition, et puis on va en discuter. L'adoration, c'est ma réponse à ce qui a le plus de valeur pour moi. L'adoration, c'est ma réponse à ce qui a le plus de valeur pour moi. Alors, Je sais que ça paraît un peu bizarre, on a l'impression qu'il manque des choses dans cette phrase, mais elle a été calculée et pesée. Normalement, elle doit vous faire un peu bizarre. Mais je vais essayer de vous expliquer. D'abord, il n'y a pas Dieu dans la phrase. Et c'est volontaire parce que l'adoration, malheureusement, même si elle est destinée, elle devrait être destinée à Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on adore d'autres choses, ou à des gens qui adorent d'autres choses que Dieu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Dieu dans la phrase. Alors la première notion, c'est que l'adoration, c'est une réponse. Et je vais même aller plus loin, c'est l'engagement, c'est une soumission, c'est un choix. C'est une réponse de mon être entier. Quand j'adore, je suis engagé pleinement, entièrement, à l'objet de mon adoration. Et c'est une réponse. J'aime bien dire que c'est une réponse, parce que quand on adore Dieu, c'est pas quelque chose de spontané. J'adore Dieu quand je vois Dieu, quand je communie avec lui. J'adore Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je suis une réponse à ce que Dieu fait dans ma vie. Et moi, je sais pas vous, mais des fois, c'est difficile d'adorer si je suis juste centré sur moi-même. Si j'ai pas été saisi, fasciné par quelque chose que Dieu a dit ou que Dieu a fait, alors c'est un peu difficile. Mais à l'inverse, il m'arrive parfois que Dieu fasse une petite chose dans ma vie, puis cette chose, elle me saisit. Et je fais « Waouh !» Et là, mon cœur s'émerveille de ce que Dieu a fait. Je peux plus que l'adorer. C'est un peu ce qui se passe avec les êtres vivants dans le ciel quand ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est même écrit qu'ils le disent en permanence, en fait. Ça veut dire qu'ils sont tellement fascinés par ce qu'ils voient qu'ils peuvent... L'adoration, elle sort d'eux, je vais pas dire malgré eux, mais comme une réponse automatique presque, parce que ils sont tellement fascinés par ce qu'ils voient, par la beauté de ce qu'ils voient, que l'adoration est une réponse naturelle. Et je crois aussi, et la deuxième partie de cette définition, c'est ce qui a le plus de valeur pour moi. Pour moi, l'adoration se base sur la notion de valeur réelle que je donne à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot valeur. En fait, je vais diriger mon cœur, je vais l'orienter, je vais m'incliner, je vais être dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est mon être entier qui donne la valeur suprême à cette personne, qui dit cette personne-là a la valeur suprême, elle est au-dessus du reste, elle a plus de valeur, plus d'importance. Et je crois que dans mon cheminement à moi, l'enjeu de l'adoration, c'est de faire monter Dieu dans mon échelle de valeur. Je sais pas si vous me suivez, je vais essayer de vous expliquer ça, mais on a tous une échelle de valeur. D'accord? Ça veut dire que il y a des choses qui ont plus ou moins d'importance. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Dieu est important dans ma vie. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Ton travail? Tes enfants? Ta famille? Ta maison? Tes loisirs? Tes amis? Qu'est-ce qui est important? Et en fait, on a tous une échelle comme ça, avec où on a classé les choses par ordre d'importance. Et j'ai remarqué un truc, c'est que on a souvent pas tout à fait... Il y a une échelle déclarative, c'est-à-dire ce que je dis qui est important, et il y a une échelle réelle. Et c'est pas toujours la même. Je m'explique. Ça m'est arrivé, moi, dans une période de ma vie, et il y a d'autres personnes comme ça, qui disent « ma famille, c'est plus important que mon travail ». Et puis dans les faits, je parle beaucoup de mon travail, j'y suis beaucoup, je passe beaucoup de temps à mon travail. Puis quand je vois mes enfants, je suis tellement fatigué que j'ai plus envie de leur parler. Et du coup, mes enfants, ils me disent « Mais papa, ton travail, c'est plus important que nous. » Et il y a un décalage entre ce que je voudrais qui arrive, ce que je pense être mon échelle de valeur, et ce qu'elle est en réalité. Et la plupart du temps, c'est très facile pour le savoir. Vous savez comment vous faites ? Vous faites une situation d'urgence. Dans une situation d'urgence, vous allez toujours vers ce qui est vraiment important pour vous. Je dis souvent ça. Par exemple, des fois, il y a des gens, ils me disent, je peux pas venir à tel truc parce que je travaille. Ok, donc pas de problème. Parce que là où tu viens, ton travail est plus important en fait que ce truc-là. Ok, ça va, c'est bon. Mais ça paraît naturel, mais si par exemple, pour ceux qui ont des enfants, votre enfant se casse la jambe et que l'hôpital vous appelle en disant « Votre fils s'est cassé la jambe, venez tout de suite », vous allez quitter votre travail comme ça. Vous allez dire à votre patron « Mon fils s'est cassé la jambe, il faut absolument que j'aille à l'hôpital ». Et la priorité, hop. Et là, vous allez voir ce qui est vraiment important. Ou alors vous allez dire « Il peut attendre ce soir, c'est bon ». Vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Vous commencez à comprendre mon raisonnement un petit peu ? Donc on a tous une échelle de valeur et Dieu me pose souvent cette question, où je suis dans ton échelle de valeur ? Et je suis honnête, il est monté, mais ça a mis du temps. Comment on sait que quelque chose est important pour nous ? Vraiment. Ah, vas-y, oui, vas-y. Pas de compromis, ok. Le temps qu'on y passe, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, oui, effectivement, en temps de crise, si on nous enlève ce truc-là, est-ce qu'on va réagir très fortement ? Là, c'est pareil, c'est comme la machine à café dans une entreprise. On pourrait se dire, c'est pas important une machine à café, c'est pas ça qui compte dans une entreprise. Enlevez la machine à café d'une entreprise, vous allez voir ce qui va se passer, si c'est pas important en vrai pour les gens, c'est la crise. Le temps qu'on y passe, ok, ce qui se passe en temps de crise, quoi d'autre ? Ce que ça nous coûte, ouais. L'énergie qu'on y met, à quoi je pense le matin en me levant, à quoi je pense le soir en me couchant. Il y en a, moi je connais, ils ont un sujet comme ça qui les obsède du matin au soir. Qu'est-ce qui occupe vos pensées ? Qu'est-ce qui consomme votre énergie ? Qu'est-ce qui consomme votre argent ? Tout ça parle. Pour vous, de vos priorités. Voilà pourquoi je parle de valeur. Et la question, c'est où est Dieu dans l'échelle de ta vie ? Et si tu dis qu'elle est vraiment tout en haut, j'ai envie de dire, prouve-le. Enfin, c'est un peu, je provoque un peu, mais montre-moi à quel point Dieu est important dans ta vie. Fais-moi voir, raconte-moi ce que ta vie dit. Pas forcément ce que tu dis juste avec ta bouche. Et l'adoration, pour moi, il y a quelque chose qui parle de quelle est l'importance que tu donnes à Dieu dans ta vie. Est-ce que vraiment il est tout pour toi ? On l'appelle Seigneur, hein ? On lui donne le titre suprême sur notre vie. On lui dit notre vie ne m'appartient plus, elle t'appartient à toi. Ça c'est l'adoration, mais l'adoration ça doit nous faire monter Dieu dans notre échelle de valeur tout en haut. Tout en haut, tout en haut. Lui d'abord. Ok ? On y revient. Lui en premier. Voilà pourquoi je parle d'échelle de valeur. J'espère que vous comprenez un petit peu mon raisonnement. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Il m'est arrivé un truc cette semaine. Dimanche, enfin en début de semaine, là, j'étais pas bien du tout dans ma vie. J'étais complètement saturé. Je sais pas si ça vous arrive, mais j'arrivais plus rien à faire, j'avais plus d'envie. Alors d'habitude, ça va, j'ai de l'énergie, j'aime bien et tout. Et puis là, d'un coup, plus rien. Blackout. Réservoir vide. Oh, panne sèche. J'étais pas bien du tout. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, la première chose que j'ai fait, parce que j'ai des réflexes d'orphelin, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ? Ça vous arrive jamais à vous ? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de travers ? J'ai dû faire un truc de travers là, parce que là, je sentais plus sa présence. C'était terrible. Je sentais comme si Dieu s'était éloigné de moi d'un seul coup. Je dis, j'ai dû faire un truc grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, en général, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, c'est « Oh, l'ennemi est en train de m'attaquer. Ça y est, je suis la cible. Je suis... voilà. Et l'ennemi s'en prend à moi. » Mais je savais que c'était pas ça non plus. Enfin, il s'en prend à moi en permanence, hein, je veux dire. Il s'en prend pas plus à moi. Il s'en prenait pas plus à moi pendant cette période-là. Même si j'ai eu besoin de la prière des frères et sœurs. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a parlé d'une manière complète. Il m'a donné une troisième option que j'avais pas remarquée. Il m'a dit ceci. Qu'est-ce qui triomphe de toi? En fait, c'est un ami qui m'a dit ça. Je fais quoi? Hein? Qu'est-ce qui triomphe de toi? En fait, il y a un verset qui se trouve dans 2 Pierre 2,19 et qui dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2,19. Tout homme est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Et en fait, ça m'a tellement parlé parce que j'avais l'impression dans ma vie d'être vaincu. J'avais tous les symptômes du mec vaincu. Voilà, plus de force, plus envie, terminé. Ok. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a des choses un peu personnelles avec le Seigneur, mais j'avais vraiment l'impression que le Seigneur voulait que je comprenne qu'il y a des choses qui, il y a toujours quelque chose qui peut te vaincre si tu n'es pas attentif. Et j'ai envie de te poser la question, et je crois que l'adoration nous pose cette question-là. L'adoration nous dit par quoi es-tu vaincu dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui triomphent de toi? Est-ce que, par exemple, tu attends une promesse depuis très longtemps et tu en as marre? Tu lâches l'affaire. Voilà. Tu dis, non, bah, écoute Seigneur, tu m'as promis ça, mais ça fait des années, ça n'arrive pas. Tu es vaincu par le temps, par le fait de dire non, j'allais dire le manque de foi, ou en tout cas le manque de dire non. Voilà. Tu peux être vaincu par la durée de l'attente d'avoir des promesses ou des réponses. Tu peux être vaincu par ton travail et par la charge et par le poids que ça représente pour toi, pour ta famille. Tu peux être vaincu par ton propre ministère, ton propre appel. C'est-à-dire que, quelque part, le ministère, ça, c'est tout en haut, vous savez, c'est le truc, c'est la mission que Dieu me donne. Puis je m'y engage tellement, je mets de l'énergie, puis dès que ce truc-là est attaqué, ça y est, tout s'écroule. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce que c'est ce que les autres vont dire de toi? Est-ce que c'est ta réputation? Ça, c'est quelque chose dont on a du mal à se défaire. De vouloir avoir une bonne réputation auprès des autres, pas passer pour un faible. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce que l'adversité a triomphé de toi? Les choses qui viennent contre toi, l'adversité, la maladie, est-ce que ces choses triomphent de toi? Et la dernière chose que le Seigneur m'a dit, et c'est là où tout s'est éclairé, il m'a dit, moi, je veux triompher de toi. Je veux triompher dans ta vie. Je veux pas que tu capitules devant toutes ces choses. Je veux pas que tu fléchisses le genou devant la réputation, devant le travail, devant les difficultés. Ne fléchis pas le genou devant ces choses-là. Je veux que tu fléchisses le genou devant moi. Waouh! Ah, ça m'a fait quelque chose. As-tu été vaincu par la durée de l'attente? Finalement, quand on adore, on capitule en quelque sorte devant la grandeur, la magnificence, la toute-puissance de Dieu. Ecclésiaste 11, versets 4 à 6 dit: tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu fait toutes choses parfaitement selon son plan. Et ça te dépasse largement. Ça dépasse ta vie en largeur, en longueur, dans le temps. Il y en a avant toi, il y en aura après toi. Il y a d'autres personnes que toi. Il y a un grand plan divin dans lequel tu es partie prenante. Mais ça te dépasse complètement. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Toujours. Et ça m'a plongé dans un état d'émerveillement, si vous saviez. Je me suis retrouvé, quand il m'a parlé de ça, j'étais pas bien, et d'un seul coup, j'étais émerveillé. Parce que je comprends un peu que Dieu veut triompher dans ma vie. C'est incroyable, ça n'a pas de sens. Et j'avais vraiment l'image d'un conquérant qui vient dans ma vie et qui dit: je vais conquérir ta vie par ma présence. Wow. Qui suis-je pour mériter une telle grâce? Il est dit aussi dans... Oups, j'ai oublié la référence, je ne l'ai pas notée. Je vous la retrouverai s'il faut. C'est dans Hébreux 12, je crois, que Jésus est l'auteur. Jésus fait naître la foi et l'amène à la perfection. Voilà, l'auteur est le consommateur de la foi. Les versions modernes disent: il est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies pour amener ce qu'il a semé à la perfection, pas à moitié, à la perfection. Est-ce que ça ne vous plonge pas dans un état d'adoration totale de dire: mais Dieu est un conquérant dans mon cœur pour me faire émerveillé, mais j'ai dû capituler devant lui. J'ai dû fléchir le genou. Et l'adoration, ça parle de ça. Devant qui tu fléchis le genou? Devant qui tu capitules? Tu capitules devant Jésus ou tu capitules devant les épreuves, devant tout ce que l'adversaire met devant toi? Ça nous parle d'abandon, ça nous parle de consécration, ça nous parle de passion. Est-ce que tu es passionné pour Jésus? Est-ce que tu es captivé par son regard? Ça va? Moi, je peux vous dire, je suis émerveillé, captivé par ce que tu fais. Il suffit de penser, je sais qu'une des choses, je l'ai peut-être déjà dit, mais une des choses qui me fascine, c'est que tous les matins je sors prier, j'essaie de prier au lever du soleil à peu près, et chaque matin le lever du soleil c'est la même chose, on est d'accord? Le lever du soleil il se lève toujours au même endroit. Et chaque matin, c'est un tableau différent. Je ne sais plus si c'était hier matin ou avant-hier matin, j'ai vu un lever de soleil cristallin, avec, vous savez, une légère voile de brume d'hiver là. Oh, c'était d'une beauté. Et quand je pense à ça, ça me rappelle que Dieu en permanence fait toutes choses bonnes, toutes choses belles, toutes choses parfaites. Il n'y a pas un moment où ce qu'il fait n'est pas la bonne chose. Il fait toute chose belle en son temps. C'est pas fascinant, ça? Alors ne te laisse pas vaincre par d'autres choses. Laisse-toi vaincre par Jésus. Moi, je suis quelqu'un qui lutte avec Jésus. Je ne sais pas si vous, c'est un peu la même chose. Dans ma relation avec Jésus, c'est pas toujours « je te bénis Seigneur, merci Seigneur ». Il y a des fois, je suis pas d'accord avec ça. Je dis, non, ça me va pas. pourquoi ma femme est au chômage depuis plus d'un an, Seigneur, ça a pas de sens. Elle cherche du travail, elle est bien, elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle est motivée, machin. Et chaque fois, ça marche pas. Je suis pas d'accord, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, c'est qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et puis là, quand je change mon mode de pensée, que je passe dans un état d'adoration. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est marrant ça. Vous savez, je suis plus dans l'état de me plaindre. Je change d'état. Je suis dans un état d'adoration. Mais Dieu, s'il veut lui donner un travail, il suffit qu'il ouvre la bouche et elle a un travail. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de donner un travail à ma femme? Même pas de mon péché, même pas. Il y a même sa grâce quand il y a besoin. C'est pas ça le problème. Je suis en contrôle. Peut-être que j'ai quelque chose d'autre de prévu. Peut-être que j'ai besoin de travailler ta foi, votre foi en tant que couple. C'est dur pour vous, donc ça vous apprend la persévérance. Ben voilà. Merci Seigneur. Tu fais toutes choses parfaitement. Il n'y a pas de souci. C'est quand tu veux. Et le dernier point que je voudrais aborder sur l'adoration, il y a encore tellement à dire. Vous comprenez bien que je survole les choses, mais je veux aller au cœur de ce qu'est l'adoration. C'est le passage de Jean, chapitre 4, qui parle de l'adoration. Ça aussi, c'est un passage que vous pouvez relire. C'est le chapitre où Jésus parle à la Samaritaine, se révèle comme le Messie. Et il dit plusieurs choses très intéressantes sur l'adoration. Je vais en citer quelques-unes. Il lui dit notamment une chose. Il lui dit, nous, les Juifs, donc c'est un Juif qui parle à une Samaritaine, hein, donc Jésus qui parle à la Samaritaine et qui dit, nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot connaître? Les Juifs connaissaient Dieu parce que Dieu était intervenu dans l'histoire du peuple d'Israël tout au long de l'histoire de manière extraordinaire, magnifique, des délivrances, des miracles, des tout ce que vous voulez. Et le peuple de Dieu avait créé avec son Dieu une relation intime, chaotique, certes, pas toujours bonne, c'est vrai, mais le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu, et il connaissait Dieu. Vous savez, hein, le connaître biblique, c'est pas le connaître moderne occidental. Hein. Dans notre langage à nous, connaître, ça veut dire savoir dans sa tête. Ok, je connais ma leçon de français, je connais le chemin de la maison, voilà. Dans la Bible, vous oubliez ça, la plupart du temps, le mot connaître signifie avoir une relation intime avec. Ça paraît, c'est bien autre chose, c'est très différent. Quelque chose qui s'est construit par le vécu et par la relation et par l'intimité. Hein, c'est le mot qui est employé quand, pour la relation sexuelle, vous savez. Hein, Adam connu Ève. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Donc c'est le connaître biblique, donc celui de la culture juive, correspond à une intimité née d'une pratique longue et d'une expérience vécue. C'est une intimité qui correspond à la maîtrise d'un art ou à une relation profonde avec quelqu'un ou un cœur à cœur. J'aime bien donner cet exemple, je l'ai déjà donné à l'église. Tout le monde, ou presque, connaît Cristiano Ronaldo. Peut-être même que si vous êtes fan de foot, je ne sais pas, il y a des fans de foot ici? Non, peut-être pas trop. Ouais, allez, le SCO. Alors, si je ne connais pas les joueurs du SCO, mais si, bon, on va dire que vous connaissez à peu près tous Cristiano Ronaldo, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Moi. Ou Lionel Messi, hein, ça marche aussi. Vous le connaissez, peut-être même que vous imaginez, vous avez un petit neveu ou par exemple qui aime beaucoup ce joueur, alors il va afficher un poster de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, Il va essayer d'en savoir plus sur lui. Où est-ce qu'il a joué? Combien de buts il a marqué? Dans quelle équipe il joue? Combien il gagne? Qu'est-ce qu'il fait pour les vacances? Il va le suivre sur Twitter, sur Insta, sur Snap, sur tout ce que vous voulez, sur Facebook. Donc il sait beaucoup de choses sur lui. Mais est-ce qu'il connaît Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il a passé du temps avec lui? Est-ce qu'il sait comment il réagit à telle chose? Est-ce qu'il a déjà eu un entretien avec lui? Non. Eh bien, parfois, on agit comme ça avec Dieu. On sait beaucoup de choses sur lui. Beaucoup, beaucoup de choses. On a la Bible, on a les enseignements, on en a plein la tête. Pas de souci. Mais est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu peux dire, Dieu est mon ami, on se connaît. Je sais ce qu'il aime. Je sais, je sais dans ma tête, je l'ai expérimenté dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vu agir dans ma vie, il a changé des choses. Il a été près de moi. C'est une personne avec qui j'ai une relation. Donc nous adorons ce que nous connaissons, c'est ça. L'adoration, c'est un acte. En tout cas, l'adoration de Dieu, c'est un acte de profonde communion, de relation. Dieu est un Dieu de relation. Et d'ailleurs, c'est une des différences avec le camp d'en face. Dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas de relation dans l'adoration. C'est une adoration contractuelle, d'accord ? Adore-moi et tu auras ça. En échange. Et la plupart du temps, c'est une escroquerie en plus. Mais avec Dieu, l'adoration, c'est une adoration de relation. C'est un acte profond de communion. L'image, bien sûr, c'est celle la plus commune, c'est celle du mariage. On sait très bien que si un mari et une femme peuvent vivre dans la même maison et plus parler, par exemple, et plus avoir une vraie relation, est-ce ça le sens du mariage? C'est pas ça qui produit la vie, c'est pas ça le mariage. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans communion, pas de communion sans relation. Si je suis un chrétien qui ne connaît pas Dieu comme le faisaient les Samaritains, je peux être un pharisien, plein de religiosité, d'apparence. Alors je suis toujours le mari de ma femme, que je sois dans une bonne relation, dans une relation tout court avec elle ou pas. Mais c'est pas ça qui produit la vie. Ce qui produit la vie, c'est la relation que nous pouvons avoir l'un avec l'autre. Voilà le type d'adoration auquel le Seigneur aspire. Et puis dans ce passage de Jean 4, je survole, mais vous savez qu'il est dit, c'est là qu'il est dit que le Père recherche des adorateurs qui font comment? En esprit et en vérité. Donc déjà, c'est super bien de savoir que le Père recherche des adorateurs. Ouais, moi je veux en être. Et le comment, c'est en esprit, en vérité. Je ne vais pas creuser ce point-là, mais parce qu'il y a encore beau, ce serait un enseignement à part entière. Mais l'adoration en esprit, en vérité, c'est aussi comme de cette manière-là que Dieu attend notre adoration. Ok, ça va? Alors je vais conclure là-dessus, et puis on va adorer ensemble. Il y aurait tellement à dire, mais j'espère que dans cette formation, on aura l'occasion d'aller encore plus loin. J'espère surtout vous donner envie, en fait. J'espère que vous comprenez le sens profond de ce qu'est l'adoration. Vous voyez que c'est très loin des notions musicales, des notions intellectuelles. On est vraiment dans quelque chose qui est très profond dans nos vies, très profond dans nos cœurs, qui parle de notre échelle de valeur, qui parle de ce à quoi on est soumis. Et je veux vraiment, ce soir aussi, je veux te donner une occasion à chacun de s'examiner un petit peu. C'est aussi ça, l'adoration. Ces moments où on va dire, ben finalement, il y a peut-être des choses par lesquelles je suis vaincu dans ma vie. Et j'ai besoin que Dieu soit victorieux, soit vainqueur, que je sois vaincu par le Christ. Et peut-être on prendra un temps pour prier pour ça. Je veux juste parler de l'adoration et de la maison de prière quand même, parce que on est là pour parler de la maison de prière. Et tout élan du cœur comme ça, tout émerveillement vers Dieu quand, au moment où on s'abandonne, est un acte d'adoration. D'ailleurs, énormément de choses peuvent être un acte d'adoration. Dans la maison de prière, l'adoration, c'est vraiment dans l'ADN de ce que c'est une maison de prière. Puisque une maison de prière, ça raconte quoi? Une maison de prière, ça raconte Dieu au centre. Dieu en premier. Dieu roi au milieu de nous. D'ailleurs, si vous retenez qu'une chose de toutes les séances de formation qu'on vous donne, c'est celle-là. Maison de prière égale Dieu au centre. Collectivement parlant, bien sûr, Dieu est aussi appelé à être au centre de nos vies individuellement, mais aussi collectivement. Donc, puisque la maison de prière parle de Dieu au centre de nos vies, l'adoration est évidemment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Mais c'est important. Écoutez-moi bien, c'est très important. J'ai observé beaucoup d'initiatives de prière qui mettent de côté cet aspect de l'adoration dans la prière. Et je pense que c'est une erreur. Alors, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas nos prières, hein. C'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est pas. On est appelé à faire plus que ça. Pourquoi ? Je vous donne un exemple très concret. Ma femme, à une époque, elle le fait toujours à la maison, mais à une époque, dans la maison de prière, elle avait une veille pour les mamans, vous savez, où les mamans priaient. Donc c'était les mères en prière, ça s'appelait. Peut-être certains connaissent, c'est un mouvement international en fait. Et ils envoient un support chaque semaine avec des thématiques, des possibilités de prier, tout ça, c'est super bien fait. Donc il y a des versets, des sujets de prière pour les mères en prière, c'est très bien. Puis elle m'a montré ça, elle m'a dit, est-ce qu'on peut utiliser ça comme support à la maison de prière? Je dis, ouais, ça a l'air chouette. J'ai dit, par contre, il manque quelque chose d'essentiel. Il n'y a rien qui parle d'adoration là-dedans. Alors, pourquoi ça me gêne un peu? Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas capté. La prière, c'est pas aller devant un distributeur, mettre une pièce et obtenir quelque chose. C'est pas ça la prière. La prière, c'est donner la souveraineté, la seigneurie à Jésus sur les choses qui sont dans nos vies, le proclamer roi au-dessus de nous, au-dessus de tout ce que nous vivons. Le mettre en premier, parce que nous savons que quand il est en premier, bah ça fait une sacrée différence, parce qu'il est là, il est en majesté, il agit. Il n'est pas un accessoire dans ce que nous vivons, il est le centre. Et c'est là que vraiment les choses commencent à changer. C'est là aussi surtout qu'il commence à nous parler de ce que lui veut. Parce que nous, on veut plein de choses. Ça, c'est pas un problème. On veut que les choses changent. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu voit les choses? Et je pense qu'il faut faire attention quand on organise des temps de prière et qu'on veut vraiment vivre quelque chose avec Dieu. Je crois que c'est indispensable qu'il y ait de l'adoration. Voilà, je le dis comme je le pense. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu rigide, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites une veille de prière, ok, à la maison de prière, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à ce qu'il y ait au moins 50% du temps qui soit de l'adoration. Voilà, c'est un petit repère comme ça. Vous faites une veille d'une heure, vous faites 30 minutes d'adoration. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre un CD si vous n'êtes pas musicien, vous pouvez jouer de la musique si vous êtes musicien, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est ce temps où vous allez révérer Dieu et dire c'est toi d'abord. Tu es Dieu. Tu es saint. On s'adresse à lui. C'est à lui qu'on parle. Ok ? Vous avez peut-être remarqué des fois, pour ceux qui viennent aux veilles, que des fois je vous dis, mais on partage des choses qu'on voit. Je dis, mais prie avec ça. Parle à Dieu. C'est ça qui est important. Et soyons vraiment dans cette attitude-là de soumission, de dire c'est toi que nous cherchons, Seigneur. Donc c'est un 50%, c'est pas, évidemment, on ne va pas se chronométrer, vous avez compris l'idée, hein, mais c'est un repère pour dire, voilà, j'ai mis 50% de ce temps. Et après, vous allez voir, ça change tout dans vos prières. Ça change tout. Parce que c'est différent de prier à partir d'un cœur humain, troublé, certes, émotionné peut-être, pas toujours très bien, pas toujours très aligné. Ça, c'est une façon de prier. Puis il y a une façon de prier où on a laissé nos soucis au pied de la croix. On est venu à Jésus, on a regardé Jésus. On l'a contemplé dans sa beauté. On a vu les choses d'en haut. On a été assis avec Christ dans les lieux célestes. Adoré avec les anges. Quand vous allez prier, vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Vous n'allez pas prier pareil. Vous allez prier avec le point de vue de Dieu sur les choses. Vous allez dire oui au plan de Dieu et non au plan de l'ennemi. Vous allez être plus audacieux parce que vous allez voir les choses d'en haut. Donc les choses qui paraissaient grosses, vous savez, quand on prend l'avion, les choses qui paraissaient énormes, elles paraissent toutes petites. On se dit, ah bon ? Allez, c'est vaincu au nom de Jésus. Et paf, on passe à autre chose. J'exagère un peu, hein, mais vous comprenez l'idée. Et puis, vous pouvez même avoir une veille où vous ne faites qu'adorer. Ne dites pas, je suis venu à la maison de prière, c'était qu'un... Moi, ça m'est arrivé de faire des temps, ce qu'on appelle dévotionnel, c'est-à-dire, je suis là, je ne fais que de l'adoration. Des fois, vous avez des gens qui disent, oh ben, on a oublié de prier. Non. On a élevé Jésus. Ça change tout. C'est peut-être ce qu'on a fait de mieux de notre journée. Et en tant qu'église, là je parle église avec un grand E, hein, l'église universelle, c'est pour ça que Dieu nous appelle aussi dans la maison de prière, c'est pour l'adorer, pour pas oublier d'être ensemble devant son trône, pour nous laisser vaincre ensemble par le Seigneur. Parce que dans les églises aussi, on peut être vaincu par plein de choses, on peut être vaincu par la division, on peut être... sous la soumission d'un pasteur tout-puissant ou quelque chose comme ça, hein, ça arrive aussi. Mais on veut pas, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut être dans la soumission à Jésus. On veut être vaincus par Jésus aussi ensemble. Ok ? On va juste prendre un temps de prière, juste sur cet aspect de peut-être d'être vaincu, qu'est-ce qui a triomphé de nous. Je sentais bien de faire ça, et puis on prendra un temps d'adoration ensemble, si vous êtes d'accord. Seigneur, tu es tellement plus grand que nos conceptions, que même ce que nous pouvons comprendre ou percevoir de toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu as donné un nom à chaque étoile. Tu as tout prévu du début à la fin, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et ma vie est entre tes mains, du début à la fin. Rien ne t'échappe. Rien ne te surprend. Rien ne te prend de court. Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui m'ont encore vaincu, devant lesquelles j'ai plié le genou, je le reconnais, Seigneur. Et je prie pour nous qui sommes ici rassemblés, Seigneur, je veux te demander de prendre la place numéro un. Ça veut dire faire descendre sans doute des choses du trône de nos vies, Seigneur. Et que toi, tu montes sur ce trône. Mais c'est un enjeu, ça se fait pas comme ça. Soit toi, c'est ce que tu désires. Tu te bats même pour ça, quelque part, dans nos vies. C'est pour ça que des fois, c'est pas très confortable. Mais Seigneur, je te prie de monter sur le trône de nos vies. Sois conquérant dans nos vies, Seigneur. Conquiers le trône de nos vies. Aide-nous, parce que c'est pas forcément évident, mais nous voulons faire ce choix ce soir de te dire, de te prier, de faire tomber les idoles devant lesquelles nous, qui ont triomphé de nous. Et les idoles, ça prend plein de formes différentes. Mais c'est aussi tous les endroits où nous avons renoncé et capitulé, Seigneur. Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop long, parce qu'on comprend pas. Tiens, je te prie pour chacun ici ce soir. Si quelque chose a triomphé de nous, eh bien, nous le reconnaissons tout simplement. Et nous disons que nous ne voulons plus capituler devant les choses qui viennent contre nous. Mais nous voulons que Jésus triomphe de nous dans nos vies. Triomphe de nos péchés, triomphe de nos attentes, triomphe de nos espoirs, triomphe de nos projets. Triomphe de notre tout ce qui peut prendre de la place, de notre réputation, de notre travail. Sois vraiment celui qui devient numéro un. Et je te remercie parce que je sais que c'est le premier acte d'adoration. Le premier acte d'adoration, il ressemble à un genou qui fléchit, à un cœur qui s'incline et qui dit « Oui, je reconnais que tu es Dieu, comme Job l'a fait, Seigneur. » Dans toute l'histoire de Job, il lui arrivait plein de choses. Il te connaissait, il était même selon ton cœur, et il lui arrivait plein de choses contraires. Et il s'est plaint à Dieu de toutes les manières possibles. Et puis tu lui as montré l'univers, et il a fini par dire « Je comprends maintenant, je capitule. » C'est toi qui es Dieu, et tu fais ce que tu veux. Il a dit qu'il avait entendu parler de toi, mais que maintenant il t'avait vu. Et maintenant, alors que nous capitulons devant toi, que nous renonçons à nos propres voies, à nos propres trônes, à nos propres idoles, alors que tu prends la place au milieu de nous, nous devenons des adorateurs, de ceux qui peuvent être captivés par tout ce que tu fais, complètement émerveillés, saisis par ta grandeur, que nous ne comprenons pas. Celui qui permet que toute chose s'enchaîne parfaitement, que toute chose soit à la fois, serve à la fois tes plans et soit en même temps des choses belles. Seigneur, on ne comprend pas tout, mais on comprend que tu es Dieu. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, ensemble, en esprit, en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que tu recherches. Tout est pour toi. Rien pour nous, tout pour toi. Rien pour nous si ce n'est la joie simplement d'être participant à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, parce que tu nous aimes. Vraiment, je te prie de nous fasciner encore là où on est un peu tiède, là où on s'est laissé envahir par d'autres choses. Rends-nous à nouveau bouillants, des adorateurs où ça vient du fond de l'être, où tout notre être est saisi par ta présence et ta beauté, Seigneur. Si nous avons oublié ta beauté, rappelle-nous ta beauté. Si nous avons oublié ta puissance, rappelle-nous ta puissance. si nous avons oublié ton amour, rappelle-nous ton amour. Tu veux un peuple fasciné au milieu de nous. Fais de nous, Seigneur, un peuple fasciné. Et avant d'entrer dans ce temps d'adoration, si tu as senti que Dieu te disait quelque chose au moment où j'ai parlé de choses qui triomphent de toi, tu peux aussi avoir ce sentiment un peu de défaite. Mais c'est pas pour ça que Dieu fait les choses, vous avez compris. Dieu veut qu'on ne capitule pas devant ces choses-là, mais que ce soit Dieu qui soit vraiment Dieu qui agisse et qui prenne la place et qui guérisse ces choses. Si tu te sens concerné, si tu sens que tu ne peux pas adorer parce qu'il y a quelque chose qui est comme un voile, qui est comme un renoncement dans ta vie, je vais juste t'inviter, on ne va pas se regarder les uns les autres, je veux juste t'inviter à lever la main dans un signe que tu demandes à Dieu de triompher dans ta vie pour cette chose et je vais prier spécialement pour toi. Si tu te sens concerné, lève juste ta main à ta place. Ok, merci, vous pouvez baisser les mains. Seigneur, je te prie particulièrement pour ces personnes qui ont levé les mains, Seigneur. Nous reconnaissons aussi que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes et que c'est la puissance de ton esprit qui agit en nous, qui transforme les choses. Peut-être qu'on a besoin que nos échelles de valeurs changent. Peut-être qu'on a besoin de contempler l'univers pour comprendre que ce que tu fais est parfait et qu'on n'a pas à fléchir devant autre chose que toi, Seigneur. On a besoin de ton aide et je te prie particulièrement pour ces personnes, pour que ce qui a triomphé d'eux, ce qui les a vaincus, sois vaincu maintenant par toi et par ton amour et par ta puissance et par ton Saint-Esprit qui vient et qui guérit et qui triomphe. Seigneur, tu restaures, tu relèves, tu deviens victorieux. Tu prends ta victoire, tu t'empares de ces cœurs-là, Seigneur. Tu les conquiers comme un conquérant venant réclamer son dû, venant réclamer le trône qui lui appartient. Nous disons que Jésus vient réclamer le trône de ses vies maintenant et que toutes les statues comme les statues de Dagon tombent devant la puissance de Jésus qui vient comme un guerrier triomphant dans les vies. Et tu fais d'eux à nouveau des adorateurs, des adoratrices du Très-Haut. Tu fais d'eux à nouveau des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, des triomphants, des fascinés, des passionnés, des consacrés. Et Seigneur, nous refusons aussi en tant que corps tout ce qui nous fait capituler devant autre chose que toi. Nous le proclamons sur nos vies aussi en tant qu'Église. Tu le fais. Toi, Jésus, qui as vaincu le monde à la croix. Tu as vaincu le monde. Il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus.